J'aimais cette citation que j'ai mise sur la carte, je la lis, hein, vous l'avez toutes presque. L'amour d'une maman, c'est la conviction que ses poussins sont des signes, ce qui est la meilleure façon de donner du moral à des enfants qui sont convaincus d'être de vilains petits canards. Tellement important, et que ce soit nos enfants dans la chair ou nos enfants parce que c'est des gens qu'on s'occupe d'eux, c'est exactement la même chose. C'est pas juste le fait de les avoir portés qui change quelque chose. Et c'est vrai que moi je suis pas une maman, je suis un papa. Et puis on voit tout ce qu'on a raté en tant que parent. Mais en même temps, quand on parle, enfin quand je parle avec des adultes aujourd'hui et que je vois comment des gens de mon âge, plus âgés que moi, pour certains c'est trop tard, ils le sauront jamais. Pour d'autres, savoir si mes parents m'aimaient ou non. Et je me dis, ben c'est bien si on éduque bien nos enfants, mais on a le droit de tout rater si au moins on a réussi ça. Imparfaitement, mais ils savaient qu'on les aimait. Et puis, parce qu'on est tous ces vilains petits canards, on a tous l'impression que, ben oui, mes frères et sœurs, les autres, ou même si j'ai pas de frères et sœurs, eux, ça va, mais moi, qui peut m'aimer comme je suis? Et en fait, on vit tous avec ces questions-là. Et puis, bien sûr, ben, au-delà de l'amour humain, on a notre Père Céleste qui est aussi une mère pour nous, hein, qui veut nous rassembler sous ses bras comme une poule rassemble ses poussins, avec de la tendresse. Alors ce matin, pour la fête des mères, j'ai abandonné Romain, on y reviendra. Parce que c'était pas Romaine, c'était Romain, quoi. Vous connaissez, hein, la citation. Hé, les Romains, vous êtes des Romaines, hein. Non, c'est autre chose. On va pas faire que pleurer ce matin, quand même. Et je vais vous lire un passage, un texte qui me touche toujours autant dans le Nouveau Testament, et puis on va aller promener pour une fois sur une histoire dans l'Ancien Testament. Alors tout d'abord, 1 Corinthiens 2, 9 jusqu'à 16. Mais c'est comme il est écrit, ce que l'œil n'a pas vu, ce que l'oreille n'a pas entendu, ce qui n'est pas monté au cœur de l'homme, tout ce que Dieu a préparé pour ceux qu'il aime. À nous, Dieu l'a révélé par l'Esprit. Car l'Esprit sonde tout, même les profondeurs de Dieu. Qui donc parmi les hommes sait ce qui concerne l'homme, si ce n'est l'Esprit de l'homme qui est en lui? De même, personne ne connaît ce qui concerne Dieu, si ce n'est l'Esprit de Dieu. Or, nous n'avons pas reçu l'Esprit du monde, mais l'Esprit qui vient de Dieu, afin de savoir ce que Dieu nous a donné par grâce. Et nous en parlons non avec des discours qu'enseigne la sagesse humaine, mais avec ceux qu'enseigne l'Esprit, en expliquant les réalités spirituelles à des hommes spirituels. Mais l'homme naturel ne reçoit pas les choses de l'Esprit de Dieu, car elles sont une folie pour lui, et il ne peut les connaître, parce que c'est spirituellement qu'on en juge. L'homme spirituel, au contraire, juge de tout, et il n'est lui-même jugé par personne. En effet, qui a connu la pensée du Seigneur pour l'instruire? Or, nous avons la pensée de Christ. Je crois que ce texte est vraiment comme un texte central dans le Nouveau Testament, parce qu'il est une clé dans le monde spirituel. C'est justement un des textes qui nous aide à comprendre comment passer de l'information sur Dieu à la relation avec Dieu. Alors, on va garder ce texte à l'esprit, et je vais y faire quelques petits retours. Et on va maintenant donc faire un long voyage dans le temps. David, je suis un peu comme David, c'est vrai que la musique d'il y a 30 ans, j'ai du mal, mais la musique d'il y a 1000 ans, 1500 ans, quelques mille ans, ça passe mieux. Donc il faut juste qu'on vive assez vieux pour apprécier plus tard. Hein. Voilà, au ciel, on appréciera. Et on va arriver avec une histoire que vous connaissez bien, mais peut-être qu'on va voir un petit peu différemment de ce que vous avez déjà vu ou entendu. L'histoire de la maman de Samuel, Anne. Ouais, vous connaissez ça. Alors je vais quand même la lire dans la Bible. 1 Samuel 1:1, c'est simple. Il y avait un homme de, je sais plus trop où, Ranamaim Tsafouin, je sais pas le prononcer, de la montagne d'Éphraïm, nommé Elkana. Ça devient important. Il avait deux femmes. Le nom de l'une était Anne et le nom de la deuxième, Pénina. C'est pas une marque de pâte. C'était le nom d'une dame. Pénina avait des enfants, mais Anne n'avait point d'enfants. Chaque année, cet homme montait de la ville à Silo pour se prosterner devant l'Éternel des armées et pour lui offrir des sacrifices. Le jour où Elkana offrait son sacrifice, il donnait des parts à sa femme Pénina, ainsi qu'à tous ses fils et à toutes ses filles. Mais il donnait à Anne une part double, car il aimait Anne que l'Éternel avait rendue stérile. Sa rivale ne cessait pas de lui causer du chagrin pour qu'elle se révolte, parce que l'Éternel l'avait rendue stérile. Toutes les années, il en était ainsi. Chaque fois qu'Anne montait à la maison de l'Éternel, Pénina lui causait du chagrin de la même manière. Alors elle pleurait et ne mangeait pas. Son mari lui dit, « Anne, pourquoi pleures-tu et ne manges-tu pas ? Pourquoi ton cœur est-il attristé ? Est-ce que je ne vaux pas mieux pour toi que 10 fils ?» Quelle sensibilité cet homme. Ah, des fois on a honte hein, d'être un homme. Anne se leva après qu'on eut mangé et bu à Silo. Le sacrificateur Élie était assis sur un siège près du montant de la porte du temple de l'Éternel. Et l'amertume dans l'âme, elle pria l'Éternel et pleura beaucoup. Elle fit un vœu et dit, « Éternel des armées, si ton regard s'arrête sur l'humiliation de ta servante, si tu te souviens de moi et n'oublies pas ta servante, si tu donnes un garçon à ta servante, je le donnerai à l'Éternel pour tous les jours de sa vie, et le rasoir ne passera pas sur sa tête. » Comme elle multipliait ses prières devant l'Éternel, Élie observa la bouche. Anne parlait dans son cœur, seules ses lèvres remuaient, mais l'on n'entendait pas sa voix. Un autre homme qui intervient. Élie pensa qu'elle était ivre. Quelle catastrophe. Il lui dit, « Jusqu'à quand seras-tu dans l'ivresse ? Fais passer ton vin. » Anne répondit, « Non, mon Seigneur, je suis une femme à l'esprit affligé. Je n'ai bu ni vin, ni liqueur forte, mais j'ai penché mon âme devant l'Éternel. Ne prends pas ta servante pour une femme de rien, car c'est l'excès de ma douleur et de mon chagrin qui m'a fait parler jusqu'à présent. » Élie reprit la parole et dit, « Va en paix, que le Dieu d'Israël te donne ce que tu lui as demandé. » Elle dit, « Que ta servante obtienne ta faveur. » Et cette femme poursuivit sa route. Elle mangea, et son visage ne fut plus le même. Ils se levèrent de bon matin après s'être prosternés devant l'Éternel et s'en retournèrent dans leur maison. Elkana connut sa femme, Anne, et l'Éternel se souvint d'elle. Dans le cours de l'année, elle devint enceinte, accoucha d'un fils qu'elle appela du nom de Samuel, car, dit-elle, « Je l'ai demandé à l'Éternel. » Le mari Elkana monta ensuite avec toute sa famille pour offrir à l'Éternel le sacrifice annuel et pour accomplir son vœu. Mais Anne ne monta pas. Elle dit à son mari, « Lorsque le garçon sera sevré, je le mènerai afin qu'il soit présenté devant l'Éternel et qu'il reste là pour toujours. » Elkana, son mari, lui dit, « Fais ce qui te semblera bon. Reste ici jusqu'à ce que tu l'aies sevré. Que l'Éternel accomplisse seulement sa parole. » Et la femme resta, elle allaita son fils jusqu'à ce qu'elle l'eût sevré. Quand elle l'eut sevré, elle le fit monter avec elle, prit 3 taureaux, un épha de farine, une outre de vin, et elle le mena dans la maison de l'Éternel à Silo. Le garçon était encore tout jeune. Ils égorgèrent le taureau, conduisirent le garçon à Élie. Anne dit, « Pardon, mon Seigneur, aussi vrai que tu es vivant, je suis cette femme qui se trouvait placée ici près de toi pour prier l'Éternel. C'était en vue de ce garçon que je priais, et l'Éternel m'a donné ce que je lui demandais. Aussi, moi, je veux le prêter à l'Éternel, il sera toute sa vie prêté à l'Éternel. » Et ils se prosternèrent là devant l'Éternel. Et puis après, elle va chanter un magnifique cantique. Alors, c'est une longue histoire, mais peut-être tout le monde ne la connaissait pas par cœur, il fallait quand même la relire. Elle a beaucoup de choses à nous apprendre. On va faire une chose que j'ai jamais fait en 7 ans que je suis ici, c'est que je vais utiliser un passage de l'Ancien Testament avec ce qu'on appelle une interprétation allégorique. Et j'aime pas ça normalement parce qu'avec ce genre d'interprétation, on peut faire dire absolument ce qu'on veut au texte de la Bible. Mais c'est pour ça que j'ai commencé avec ce texte du Nouveau Testament, parce que tout ce qu'on va voir se trouve là-dedans. Donc c'est juste une longue illustration de ce qui était dans le premier texte qu'on a lu. Le mot Elkana, c'est le nom du mari, hein, ça veut dire « Dieu a acquis ». Dieu a acquis. Cette famille-là, bancale, imparfaite, tordue, bizarre, un homme, 2 femmes, c'est pas le cœur de Dieu, hein, mais ça se faisait. C'est une famille que Dieu a acquis. Et j'aimerais simplement ce matin qu'on pense que cette famille, c'est nous. Pas moi et l'autre, ou moi et le voisin, moi le gentil et l'autre, hein. Mais cette famille dans son ensemble, elle représente nos vies. Dieu nous a acquis, Dieu nous a rachetés, nous sommes à lui. Mais ce n'est pas aussi simple que ce qu'on a pu le penser quand on était tout jeune, ou il y a longtemps, ou qu'on nous a dit. Hein. Avant, je n'étais pas chrétien, j'ai rencontré Dieu, maintenant tout va bien. C'est... Ouais, okay. Je pense ici, il n'y a plus personne qui est encore dans ces comptes-là. C'est autrement. On est cette famille compliquée, avec ce mari qui ne comprend pas grand-chose. Il essaie de gentil, mais il dit des monstruosités. Avec cette lutte entre ces deux femmes qui sont là. Pourquoi il y en a deux ? C'était prévu qu'il n'y en ait qu'une, mais il y en a deux. Hein. Penina, ça veut dire corail, perle, hein, selon les traductions. Penina, c'était celle qui a réussi. On peut supposer qu'elle était belle avec le nom qu'elle avait, perle ou corail. En tout cas, elle avait un joli nom. Elle avait des enfants. Et pour nous, c'est peut-être une chose bizarre, c'est un texte qui ferait hurler les féministes aujourd'hui, je peux comprendre. Mais dans le contexte culturel de l'époque, le succès pour une femme, c'était avoir des enfants. C'était plus qu'aujourd'hui avoir trois Rolex, une Mercedes, une grande maison, passer un chalet dans le Valais, etc. Non, avoir des enfants pour une femme, c'était la réussite sociale, c'était la réussite dans tous les domaines. Une femme sans enfant, c'était, je trouve pas un équivalent culturel aujourd'hui, mais à peu près pour se retrouver dans la situation d'une femme sans enfant, il faudrait être dormir dans la rue, pas avoir de boulot, même pas avoir droit à la vie, pas avoir de vêtements, être couché sur des cartons et avoir tout raté. C'est ça et plus encore que vivait Anne. Elle servait à rien. C'est pas ce que je pense des femmes qui n'ont pas d'enfants, hein, mais c'est comme ça qu'elle le percevait. Et donc on voit l'opposition entre ces deux femmes. Ce que j'ai pas précisé, Anne, ça veut dire grâce ou faveur. Drôle de nom pour une femme qui a rien. Et en méditant là-dessus, je réalisais que il y a ces deux femmes en moi. Oui, j'ai été acquis à Dieu. Ma vie en tout a été acquise à Dieu, comme toute cette famille. Ben, c'était tous des croyants, il n'y avait pas d'incroyants dans ce contexte-là. Hein. Mais en moi, il y a cette lutte entre ces deux femmes. J'ai envie de réussir ma vie, j'ai envie d'être reconnu, je veux que tout le monde pense que je suis un grand prédicateur, un grand écrivain, que je suis beau, que je suis fort, que je suis gentil, que j'aide les gens, que je peux sauver le monde. Je veux réussir. Hein. Selon mon âge, ben, mes souhaits sont différents. À 20 ans, j'avais des rêves, aujourd'hui j'en ai d'autres, et dans 10 ans, si je suis encore sur Terre, j'en aurai d'autres. Mais il y a cette part en nous, et c'est pas forcément quelque chose de contre-nature ou de pas normal, mais qui veut réussir dans le monde visible, qui veut de la reconnaissance, qui veut que ça se voit. Hein. Mes enfants qui sont là, j'en ai eu, j'en ai enfanté, on peut les voir, on peut voir mon succès. Hein. Je relève ma montre, vous voyez ma longine. Non, c'est pas vrai, c'est pas une longine. Mais j'y tiens parce que c'est un cadeau d'un ami. Je garde ma voiture devant pour qu'on la voit. Je viens à l'église avec ma grosse Bible. Je cite des versets quand je prie et je connais les références. Hein. C'est en plein de domaines, mais je veux montrer, je veux prouver, j'y suis arrivé, j'ai réussi. Hein. Ma femme est là, elle est belle. Mes enfants ont fait des études, ils ont des diplômes, hein, et puis on a des étagères où on expose ces choses. J'ai fait des voyages et je montre les photos. Tout ce qui en moi veut être reconnu. Et dans ce domaine-là, malheureusement, il n'y a pas de satisfaction. Cette femme qui apparemment avait tout ce que Anne n'avait pas, la seule chose qui l'a motivée, c'était de voir Anne pleurer, de se comparer. Son bonheur était uniquement relatif. Elle n'était pas heureuse malgré tout son succès visible. Alors il lui fallait aller voir Anne et dire, tu vois, hein, toi tu n'as rien. Hein. Dieu t'a pas béni. Tu n'as pas fait ce qu'il fallait. Il doit bien y avoir un péché secret dans ta vie pour que tu n'aies pas d'enfant. Hein. Ou alors tu ne sais pas comment faire. Puis de toute façon, etc. etc., etc., etc. Et il y a ça chez nous, chez chacun d'entre nous. Hein. À la fois, cette envie d'être vu, de paraître, d'être dans le faire, et en même temps, cette insatisfaction que ça produit. Mais parce que nous sommes aussi Anne, c'est une seule famille, parce que Dieu nous a acquis, il y a aussi cette soif, ce désir d'autre chose. Je veux porter des fruits pour Dieu, mais j'y arrive pas. Je suis toujours émerveillé de voir comment Dieu conduit les choses. C'est vrai que les chants que David nous a présentés ce matin, qui sont peut-être pas effectivement une liste habituelle ou traditionnelle, amenaient vraiment à ce qu'on a à voir ce matin ensemble. Ouais, c'est pas toujours juste joyeux. J'aimerais porter du fruit pour Dieu. J'aimerais, et là je suis plus dans, c'est pas pour les autres, j'aimerais réellement que ça se passe, mais j'en suis pas capable, je suis stérile. Et je suis coincé dans ce dilemme, j'en souffre, parce qu'il y a toujours Pénina qui est là, hein, qui, non, j'ai encore fait ça, j'ai encore fait ça, j'ai réussi ça, et moi j'y arrive, vous moi j'en ai deux. Elle est insupportable, Pénina. Hein. Je dirais pas de nom, mais je connais quelqu'un dans ma belle famille qui est comme ça. Ah, hein. Quoi que vous disiez sur n'importe quel sujet, elle sait, elle a fait mieux que vous, quoi. Mais même des choses où elle connaît rien, ou surtout les choses où elle connaît rien. Tout le temps, 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 tout le temps. Mais Pénina, c'est comme ça. Et cette voix-là, elle est tout le temps en nous. Hein. Ah, mais si je faisais ça, alors là, on meurt. Hein. Si, ah ouais, si j'avais un deuxième étage à la maison, s'il y avait la véranda, s'il y avait une deuxième voiture, si je perdais 10 kilos, si j'avais les cheveux noirs, si j'avais ci, si j'avais ça. C'est toujours là, c'est épuisant. Et derrière, il y a Anne qui souffre, qui dit, mais j'aimerais me débarrasser de ça. On a parlé, on en parle chaque dimanche. Le stress, le manque de temps, on le sait, on le dit, on le répète, on fait rien pour que ça change, mais ça nous épuise. C'est ce que vivait Anne. Et cette famille entière monte au temple. C'est-à-dire que, ben, on est quand même des croyants, on vit nos vies chrétiennes, on n'est pas des gens tordus, pourris, méchants, qui n'en ont rien à faire de Dieu, mais on est partagé entre ces deux choses. Hein. Et ben, ils vont tous ensemble au temple. Il y a le mari, qui comprend pas grand-chose, lui, là. Hein. C'est un homme, hein, avec juste un bouton on-off, il n'y a pas de réglage, il n'y a pas de. C'est simple, hein, c'est en marche ou c'est arrêté, quoi. C'est un homme. Je sais, j'en suis un. Heureusement, j'ai une part très féminine, ça me sauve. Et puis, j'ai quelques réglages. Hein? Et puis, il y a ces deux femmes qui montent avec lui, et ils vont tous au temple, et ils font tous ce qu'il faut faire. Il vient, il fait son sacrifice, et puis c'est. Faut voir, hein, c'était un petit peu comme la foire de Chendon il y a 100 ans. Hein? On passait son année dans la ferme, on ne sortait pas de la ferme, et une fois par an, on allait à la foire. On se lavait, c'était peut-être la seule fois de l'année. On changeait les habits. Non, je parle pas pour la foire de Chandon, je parle pour eux. Hein, non, ben. Hein, mais vous voyez un peu ce contexte, quoi. C'est la fête de l'année, c'est la fois où on va voir du monde, c'est là où on va pouvoir justement se montrer. Parce que Pénina, c'est bien d'être jolie, mais au fond d'une tente dans le désert avec trois chameaux, ça sert à quoi? Hein? Tandis que là, on va au temple. Alors oui, on va à l'église, mais. C'est arrangé, pas trop, un peu, là, le parfum, le machin, le truc. Hein, je vais servir Dieu, mais je vais quand même montrer ma réussite. Mes enfants sont là, mes troupeaux derrière. Et puis, c'est une fête. Hein. Les Juifs étaient des gens très festifs, contrairement aux protestants évangéliques austères. Les Juifs étaient très sensuels, très festifs. Ça durait des jours. Les bêtes qu'on égorgeait, on les donnait à Dieu, mais on gardait les meilleures parties. On les faisait griller, on faisait des barbecues, ça mangeait, il y avait du vin, ça dansait. C'était la fête. On a du mal à penser comme ça, mais c'était comme ça que ça se passait. Et au milieu de cette réjouissance ben, humaine, naturelle, pas mauvaise, il y a Anne qui est là, et elle mangeait encore un gigot de taureau qu'on vient de. Ça lui dit rien. Elle est vide, elle est malheureuse, elle a de l'amertume dans l'âme. Parce que dans ce moment-là, elle réalise vraiment le décalage. Cet endroit-là, c'est l'apogée de Pénina. Hein. Même dans la religion, elle a réussi. Elle va au temple, elle expose sa réussite. Ben moi, quand je lis ma Bible, je la comprends. Et puis moi, quand je prie, vous savez ça. Et puis moi, je prie tous les matins. Et ben moi, je lis ma Bible dans une année. Et puis elle expose tout ce qu'elle sait faire. Et Anne est là, elle arrive à rien. Elle ne le fait pas exprès. Elle est stérile. Elle porte pas de fruits. Nos actes, on peut plus ou moins les contrôler. Mais le fruit. On ne peut pas le contrôler. Si la vie n'est pas là, elle n'est pas là. Hein. Et elle est malheureuse. Et le mari, hein, c'est la part. Tiens, ben écoute, t'as pas d'enfant, ben tu auras droit à deux gigots aujourd'hui au lieu d'un, tu vois. Lui donner une double ration. Génial. Il avait vraiment tout compris. Et puis, pourquoi tu es triste? Y a pas d'enfant, mais tu m'as moi. Je vaux bien 10 enfants. Oh là 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 là. Mais ça nous parle de quoi, ça? Ce que j'appelle les conseils des amis de Job. Vous savez, quand quelqu'un est là, en train de l'amertume dans l'âme, parce que sa vie n'est pas ce qu'elle devrait être, parce que la Bible lui parle plus, parce que la prière, ça l'ennuie, mais il sait qu'il devrait, mais il sait pas comment, et il sait qu'il devrait témoigner, et il n'y arrive pas, et ça le... Il n'y a pas de mots, il est devant Dieu dans l'amertume, et vous avez ces gentils chrétiens qui arrivent avec leurs conseils. Mais c'est pas compliqué, il y a qu'à. Les grands yakas. Oh, qui sont insupportables. Excusez-moi. Je sais que je devrais avoir de l'amour et de la compassion pour ces gens-là. J'en suis un des fois. Mais j'y arrive pas. Ça fait partie de mes échecs. Yaka. Et puis, ouais, y a des guides pour lire la Bible en un an. Les prières, c'est pas compliqué. Il suffit d'avoir une liste. Et puis, si on veut, on peut aussi. Anne est là, à genoux. Et elle a abandonné le repas. Elle n'a pas pris ni la double portion, ni une. Elle est partie seule. Parce que vous savez, il y a un petit moment dans le temple où on fait les sacrifices, ça c'est court, et après il y avait 2, 3 jours de fête, puis là ça durait, ah, manger, aller chanter, El Shaddai, c'était la fête. C'est ça la culture, hein. Pensez aux noces, même longtemps après, les noces de Cana avec Jésus, ça buvait, ça dansait, c'était vraiment pas des protestants austères, hein. Mais Anne, elle n'est pas intéressée par ça. Maintenant que le temple est vide, que tout le monde est parti, elle y retourne. Et elle est à genoux sur les marches. Elle n'est même pas rentrée là où ça se passe, le truc sérieux avec les gens bien. Elle est à genoux sur les marches du temple et elle pleure. Et elle pleure beaucoup. Et elle a de l'amertume dans l'âme. Et elle le dit à Dieu. Et ça dure. Et ça dure. Et ça dure. Derrière, il y a la fête. Il y a le mari qui est content avec ce taureau qu'il a tué. Il y a Pénina qui triomphe, qui expose à tout le monde. Eh bien, moi, vous savez, oui, je l'ai fait comme ça. Ah, ils sont bons, hein. Vous avez goûté ma tarte. Et Anne est à genoux sur les marches en train de pleurer. Et elle ne peut même pas le dire à haute voix. Elle vide son cœur devant Dieu. Et là, intervient un personnage intéressant, Élie. La religion. La religion qui peut absolument pas aider Anne. La religion convient parfaitement pour Pénina. Alors, la loi dit, il suffit d'eux, il y a qu'à, fais voir, il y a le poids d'un taureau, oui, il y a le nombre de kilos pour le taureau, il est correct, il a tous les morceaux, c'est parfait, c'est bien, il est bon, il est pur, il est propre, il y a le poids de farine, il y a ça, on fait ça, tout est conforme, c'est homologué, bam, tampon, voilà, ça marche, la religion est contente, Pénina est satisfaite, Elkana, il est fier, ma belle famille chrétienne. Anne, elle est à genoux, elle pleure. Elle parle à Dieu, mais elle ne sait pas quoi lui dire. Elle a des mots, mais elle ne peut pas les formuler. Je ne sais pas si ça vous dit quelque chose. Hein? En tout cas, moi, je la connais bien. Elle est souvent chez moi aussi. Et puis, on est là. Et là, le prophète, soi-disant, hein? Ouais, oui, c'est aussi un prophète, c'est ça qui est incroyable. Il vient, et avec son discernement extraordinaire, hein, une autre sorte de grand yaka, il pense que cette femme a trop bu. Vous imaginez? C'est un des. Je trouve ça plus horrible que les tueries dans l'Ancien Testament, là où il s'étripe, tout bas, c'est joyeux, il s'étripe, je te coupe la tête. Hein. Mais là, il y a cette femme qui est dans une souffrance terrible, qui est devant Dieu, qui veut porter du fruit pour Dieu, et celui qui est le représentant de Dieu sur terre vient la voir et lui dit, tu fais tache sur mes marches, là. Dégage. T'es bourré, qu'est-ce qui se passe? Notez une chose, quand Dieu agit, souvent, on pense que les gens sont sous. Pentecôte. Hein? Les disciples se conduisent comme des gens bizarres. Première réaction. Oh, ils sont tous sous. Anne, une des femmes les plus spirituelles, un des personnages les plus spirituels de la Bible, une compréhension de la grâce extraordinaire. Hein? À mon avis, dans l'Ancien Testament, elle dépasse largement même Moïse, Abraham et David. Mais le représentant de Dieu sur terre, la religion humaine, il croit qu'elle a bu. Triste. Mais ça nous montre une chose, la loi ne nous aidera pas. Ah, la loi peut faire que Pénina se sente bien, la loi peut faire que Elkana soit fier de sa famille chrétienne, mais la loi ne peut pas aider Anne. Elle s'appelle grâce, faveur. Et pour le moment, elle souffre, elle ne comprend pas. Elle va quand même expliquer à ce brave homme, gentiment, avec une douceur qui me surprend. Moi, j'aurais aimé que Anne, ce soit Virginia, parce que je pense qu'elle se serait levée, elle aurait mis deux claques à Ellie, avant de lui dire. Hein... Non, pardon, excuse-moi, c'est pas gentil. Mais j'aurais imaginé que ce soit moi et j'aurais fait ça, quoi. Hein. Je viens devant Dieu, je souffre pendant que tout le monde fait la fête, et toi, tu me dis que je suis bourré. Non, mais. Non, elle a une douceur incroyable. Ne me prends pas pour ce que je suis pas. Je suis une femme qui a de l'amertume dans l'âme parce que. Et elle explique ça. Et là, il se passe une chose. Ça m'a presque embêté, honnêtement. Vous voyez comme je suis tordu. C'est que Dieu va utiliser Élie. J'aurais aimé qu'il soit méchant du début à la fin. Non, il est abruti, il comprend rien. Et 5 minutes après, Dieu l'utilise. Ça devrait me rassurer. Hein? Dieu peut m'utiliser aussi. Mais Dieu va l'utiliser. Et il y a de l'espoir là-dedans. Hein? Parce que, enfin, on n'est pas encore à la conclusion, mais on ne peut pas déduire de ce que je dis ce matin, donc la religion ne sert à rien, les églises ne servent à rien, les pasteurs ne servent à rien, tous ceux qui... Non! Ils sont souvent à côté. Je suis souvent à côté. On est souvent à côté. On est loin d'être ce qu'on devrait être. Mais la grâce de Dieu est incroyable. Dieu utilise Élie pour parler à Anne. Waouh! Bah, vous me direz, il a utilisé une ânesse, alors bon. C'est dans la même catégorie, il peut utiliser des hommes, hein. Et c'est ce qui se passe. Elle lui explique, et là, mais ça vient pas de lui. Vous savez, c'est comme quand Pierre qui disait des âneries les unes derrière les autres, il y a beaucoup d'ânes ce matin. À un moment, il dit une chose extraordinaire, hein. Jésus lui dit, qui dites-vous que je suis? Tu es le Christ, le Fils de Dieu. Qu'est-ce que Jésus lui dit? Extraordinaire, Pierre. Pour une fois, tu fais une bonne réponse. Bon, c'est pas toi qui l'as trouvé. C'est le Saint-Esprit qui vous l'a rappelé, qui te l'a enseigné. Rappelez-vous le premier passage qu'on a vu. Comprenez pourquoi ces passages sont liés? L'homme naturel ne peut pas comprendre les choses de l'esprit. Elkana et Pénina, qui sont persuadés d'avoir raison, qui connaissent tous les versets, toutes les doctrines, qui ont fait toutes les écoles, qui savent tout, ils savent rien. Ils ont besoin que l'Esprit vienne et leur révèle la pensée de Christ. La pensée de Christ, ce n'est pas juste les versets qui sont dans la Bible. Oh oui, ils sont tous vrais, les versets qui sont dans la Bible. Mais ce n'est pas la pensée de Christ quand c'est Elkana qui les utilise, quand c'est Pénina qui les utilise, quand c'est Élie qui les utilise comme il les a utilisés la première fois. Hein? Vous savez, ces gens qui ont toujours des versets pour tout. Vous avez perdu quelqu'un, vous êtes dans le deuil, vous pleurez, puis ils viennent dire, ah ben, sois consolé parce que tu le retrouveras au ciel. Hein? Merci. Ça, vraiment, ça me fait plaisir, ça me touche profondément, ça m'encourage. Hein. Oui, mais la Bible dit que... Et la pensée de Christ, elle est où là? Oui, Christ, il savait que Lazare allait ressusciter, il a pleuré. Oh, quel émotif ce Jésus! Non, il a pleuré. Pourquoi? Pas parce qu'il doutait que Lazare allait ressusciter, pas parce qu'il croyait pas là, parce qu'il avait un être humain qu'il aimait en face de lui qui souffrait et il a pleuré. Et il n'a pas fait pour faire semblant pour que ce soit écrit dans la Bible et qu'on se dise, oh quand même, il avait des sentiments. Non! C'était un être humain normal, sans péché. Son ami venait de mourir, il savait qu'il allait le ressusciter, aucun problème dans sa divinité, mais ses sœurs étaient bouleversées, ça l'a bouleversé, il pleurait. Et c'est pas la seule fois. C'était Jésus. Donc la pensée de Christ, c'est autre chose que les informations sur Dieu contenues dans la Bible. C'est la pensée de Christ. Et là, Élie, par la grâce de Dieu, a une parole qui vient du Saint-Esprit. Et il dit à cette brave dame, ma chère Anne, excusez-moi, hein, c'est dur de dire, hein. Voilà, les yeux. Va en paix, que le Dieu d'Israël te donne ce que tu lui as demandé. Gonflé, c'est incroyable. Mais c'est génial, parce que Dieu peut le faire par nous. Moi, je voulais étudier pour convaincre les gens dans la science que Dieu existe, et Dieu m'envoie déménager. Et ça m'embête, et j'y vais en râlant, parce que je suis un chrétien. Et là, sans le savoir, entre deux cartons, je vais dire une phrase, et l'ami que je déménage est bouleversé. Ça fait 6 mois qu'il priait pour entendre cette parole, ou 10 ans, ou 3 mois, je ne sais rien. Et il était à genoux et il pleurait. Moi, je ne sais même pas, parce qu'avant j'ai dit des bêtises, après j'ai dit des bêtises. Et là, au milieu, le Saint-Esprit a permis que je dise la phrase qui répondait. Parce que Élie, si vous lisez toute l'histoire, hein, il n'est pas devenu spirituel après. Hein. Il a couvert ses fils qui faisaient des choses horribles. Il a fini tellement gras, et c'était pas hein, qu'il est tombé, il s'est rompu. Sordide. Mais Dieu l'utilisait, comme nous. Hein. Va en paix. Et là, il se passe un truc incroyable. Il s'est rien passé, hein. Puis des phrases, elle en avait entendu. Mais Dieu lui a parlé. Regardez ça, sans transition. Elle dit, donc c'est Anne, que ta servante obtienne ta faveur. Cette femme poursuivit sa route. Elle mangea et son visage ne fut plus le même. L'appétit est revenu. Elle peut manger de nouveau. Qu'est-ce qui a changé concrètement dans sa situation? Est-ce qu'elle est enceinte? Pas du tout. Il n'y a rien qui a changé. Elle a reçu une vraie parole de Dieu pour elle. Il n'y a plus rien qui est pareil. Elle peut rejoindre les autres. Hein. Les accusations de Pénina la touchent plus. L'amertume a disparu. Il s'est rien passé. Et pourtant, Dieu lui a parlé par ce bonhomme-là qu'il avait insulté deux phrases avant. Hein. Mais Dieu lui a parlé. Elle lui en veut pas. Elle en veut à personne. Elle est en paix. Elle mange et elle rentre chez elle. Mais elle rentre chez elle avec toute sa famille. Elle n'est pas allée empoisonner son mari, étrangler Pénina et dire enfin la vie commence. Je suis seule, je vais vivre avec Dieu. Elle repart chez elle, ça veut dire qu'il y a son intelligente de mari qui est là, qu'il y a la superficielle de Pénina qui est là avec ses enfants. Elle reprend sa vie. Dieu lui a parlé. Il y a toujours du stress, il y a toujours les voisins, il y a toujours le travail, il y a toujours le pasteur qui comprend rien, il y a toujours le ci, il y a ça. Mais Dieu lui a parlé. Si on parle de la méditation, de la communion, de passer du temps avec Dieu, c'est de ça qu'on parle. C'est ce qu'on veut. C'est pas passer un moment émotionnel où d'un coup on a les poils du dos qui se dressent. Ouh, j'ai senti quelque chose. Non. C'est qu'il y a Anne en nous à genoux qui pleure et qui se dit, mais c'est pas possible, il doit y avoir autre chose. La vie chrétienne, ça peut pas juste se lever le dimanche matin, aller au culte, s'asseoir, écouter les quatre chants, l'autre imbécile qui parle encore, on dit toujours les mêmes choses, le verset, on met 10 francs, on rentre à la maison et on essaie d'être gentil et honnête. Mais c'est pas possible, il doit y avoir autre chose. Mais comment faire? J'y arrive pas, j'ai essayé toutes les méthodes, j'ai lu tous les bouquins, j'essaye, je vais à l'étude là, j'ai fait ci, j'ai pris les cours là-bas, et ça change rien. Et pour ceux qui ont lu le programme de la semaine dernière, vous vous rappelez le verset que j'ai mis sur la pensée du mois? Dieu qui parle et qui dit à Israël, je la séduirai de nouveau, je l'amènerai au désert, et là, je parlerai à son cœur. À l'époque de Anne, il y avait du stress comme aujourd'hui. À l'époque de Anne, c'était aussi difficile qu'aujourd'hui. Ça n'a jamais été plus facile, ça n'a jamais été plus difficile, ça sera jamais plus facile, ça sera jamais plus difficile. L'être humain est exactement le même. Il n'y a rien qui a changé. Heureusement, Dieu n'a pas changé non plus. Je l'amènerai au désert. Pour elle, c'était sur les temples du marche, sur les marches du temple. À genoux, elle avait renoncé. J'y arriverai pas. Je peux pas servir Dieu. Je peux pas être quelqu'un de. Je suis pas à la hauteur. Je suis pas assez bien. Et j'ai pas envie de devenir comme Pénina. Et j'ai pas envie d'être comme mon gentil mari. Je veux autre chose. Et là, au désert, Dieu a parlé à son cœur. Rien n'a changé, tout a changé. Elle rentre chez elle, elle reprend sa vie. J'accélère un peu parce qu'on y est jusqu'à demain. Elle tombe enceinte. Ça se passe. Elle tombe enceinte avec cette intelligente de mari. Elle tombe enceinte. Elle a un enfant. Il naît. Qu'est-ce qui se passe l'année d'après? Je trouvais ça extraordinaire en lisant ça. Ça m'a presque fait rire. Une année plus tard, le bébé est là. Est-ce que le mari est devenu plus intelligent? Il y a quand même eu un miracle qui s'est passé, quoi. J'imagine qu'ils ont peut-être un peu communiqué, c'est pas sûr, on ne sait pas trop. Bah, c'est de nouveau l'année des sacrifices, bah, on refait comme les autres années, on remonte tous, on va faire la fête, on amène les taureaux, on va les sacrifier, on va les faire griller, on en mangera, on sera content, puis tu viens avec ton fils. La religion n'a jamais marre, toujours pareil, on reprend la routine, on reprend les mêmes, on continue. Et là, il se passe un truc incroyable, parce que quand même à cette époque-là, les femmes décidaient pas grand-chose, malheureusement. C'était les hommes qui disaient. Donc c'était acquis. Et là, qu'est-ce que dit Anne? Anne ne monta pas. Elle dit à son mari, lorsque le garçon sera sevré, je le mènerai afin qu'il soit présenté à elle. Elle a une compréhension spirituelle. On va pas faire comme on faisait avant. Oh oui, lui et Pénina, ils sont montés avec les enfants, ils ont refait comme toujours. la partie religieuse chez nous sera toujours la même. Vous pouvez entendre Dieu vous parler, vous pouvez vivre des miracles, voir des choses extraordinaires. Il y aura toujours chez vous ce côté-là qui veut que les choses soient toujours pareilles, qui est rassuré parce que c'est simple, parce qu'on sait 1 plus 1, ça fait 2. Le dimanche, on va à l'église, le mercredi, à la réunion de prière, je donne ma dîme, je fais ci, je fais ça, je mets pas les coudes sur la table, je mets pas mon doigt dans le nez, je dis bonjour à la dame, et Dieu est content. C'est simple. Cette partie-là, elle sera toujours plus ou moins chez nous. Il continue. Mais Anne, hop, stop. Or, nous avons la pensée de Christ. On va faire différemment. On va faire autrement. J'ai compris. Je ne monte pas cette année. Comment? Mais c'est une honte. Mais qu'est-ce qu'on va dire? Qu'est-ce que vont penser les gens? Non. Cette année, c'est différent. J'ai un fils. Et je vais rester ici jusqu'à ce qu'il soit sevré. Et là, il y a une chose magnifique, c'est quand Dieu nous fait don d'une parole et nous donne quelque chose, est-ce qu'on sait l'apprécier jusqu'au bout de ce qu'il faut? Elle ne s'est pas précipitée pour l'amener, elle n'a pas non plus dit « Ah ben maintenant qu'il est né, je vais le garder, je vais le cacher ». Elle savait qu'il était promis à Dieu, mais il y a un temps où il est pour moi. Et je vais pas monter faire le tralala religieux avec tout le monde. Je vais pas au culte ce matin, chérie, je reste à la maison avec mon fils. Parce que c'est le temps que Dieu nous a donné pour ça. Il y aura un autre temps qui viendra après, mais je vais vivre au temps de l'Esprit de Dieu. Et je m'en moque de ce que pensent les gens, si je suis une bonne chrétienne ou pas, qui a pas été au culte ce matin, qui a préféré rester avec son petit à la maison. Elle aurait quand même pu le donner à une nourrice ou alors monter avec. Non. Elle fait ce qu'elle a à faire, c'est un cadeau de Dieu, elle va le déguster jusqu'au moment où elle a bien assimilé ce que Dieu lui avait donné. Et puis, elle fait une chose encore plus extraordinaire. Cette femme, elle me bouleverse. La compréhension spirituelle qu'elle avait à son époque, c'est incroyable. Elle monte au temple, enfin c'est pas le temple, je dis le temple tout le temps, il n'y avait pas le temple encore, mais enfin, elle monte à l'endroit où il y avait le tabernacle et tout ça. Pour donner son fils, vous imaginez un peu, vous les mamans, vous n'avez pas d'enfant, vous priez, vous en avez un, et maintenant il faut le donner. C'est elle qui a choisi. Mais qui ne considérerait pas que c'est un sacrifice? Ce que Dieu m'avait donné, que j'ai voulu toute ma vie, je le lui rends. Et qu'est-ce qu'elle fait? Et les détails dans le texte sont magnifiques. Elle prend les 3 taureaux, elle prend la farine, elle prend le vin, elle monte. Elle monte donner son fils et elle amène quand même ce qu'il faut pour le sacrifice. Quand je rends à Dieu ce qu'il m'a donné par grâce, l'expression « rendre grâce » vient de là, j'ai reçu par grâce, j'ai pas mérité, il y a un moment où je le rends à Dieu, c'est à lui. Lorsque je rends à Dieu ce qu'il m'a donné, c'est pas de l'héroïsme, c'est pas un sacrifice, hein. Ça me met pas dans une position au-dessus. Elle vient pour offrir son fils et elle a même quand même un taureau, 3 taureaux à égorger. C'est par grâce que Dieu lui a donné un fils. C'est par grâce que nous avons été sauvés. C'est par grâce que Dieu nous parle. C'est par grâce que Dieu nourrit Anne qui est en nous et lui donne des réponses, lui donne des paroles, lui donne des promesses, lui permet de vivre. Lorsque j'ai consommé, entre guillemets, le don que j'avais, je comprends que c'est pas le don qui est le plus important. Oh, je l'ai apprécié. Mais je reviens à celui qui a donné. Je ne crois pas qu'il y ait un autre exemple dans la Bible de quelqu'un qui a une maturité spirituelle comme Anne a eu. Avec sérénité, avec calme, elle remonte et elle amène ses sacrifices. Parce que le sacrifice, ce n'est pas de donner son fils. Ça, c'est un cadeau de Dieu. Vous voyez pourquoi c'est triste quand les chrétiens qui font plein d'activités dans une église après se plaignent en disant « Avec tout ce que j'ai fait, on ne m'a pas remercié. Et puis c'est toujours moi qui fais. » Oh, Pénina, tu ne veux pas aller en vacances un peu prendre l'air. Tu nous fatigues. Je parle pour celle qui est en moi. Parce qu'Anne, quand elle a reçu une parole de Dieu et qu'elle fait ce qu'elle a à faire, elle le sait. J'y arrivais pas toute seule. J'ai essayé pendant des années d'avoir des enfants. C'est pas possible. Je peux pas le faire. C'est une grâce de Dieu. Je peux servir quelqu'un, je peux faire ci, je peux faire ça, je peux communiquer quelque chose de la part de Dieu. C'est une grâce. Et maintenant que le don est consommé, je le rends à Dieu, mais à cause du sacrifice de Christ. Les taureaux sont là, et le vin et la farine. Elle donne ça tranquillement à Dieu. Et il sera prêté à l'Éternel pour la durée de sa vie. En fait, maintenant, c'est super, il est à tous les deux. Il est à Dieu, c'est lui qui l'a donné, elle l'a redonné à Dieu. Il est prêté. Il est à nous, on a quelque chose en commun. Je ne fais pas des choses pour Dieu, j'accomplis pas des choses pour Dieu. On a quelque chose en commun, quelque chose de vivant. On a un fils, on a du fruit qui est vivant, le fruit de la vie. Et puis c'est, ben voilà, c'est nous, avec ces trois personnages en nous. Dieu nous a acquis, on est ce mari, on est tout. Il y a Pénina qui est là, jusqu'à la fin elle ouvrira sa bouche. Mais il y a Anne. Alors moi ce que je demande vraiment à Dieu, puis j'aimerais, je sais pas, un des chants si on peut reprendre, si tu veux, et qu'on prenne ce moment pour se mettre à genoux et vider nos cœurs devant Dieu. S'il y a de la reconnaissance, c'est super, hein, parce que tout va bien. Il y a des moments, heureusement, comme ça. S'il y a de l'amertume, s'il y a des questions, s'il y a des choses à dire à Dieu, on a de la chance, je vais aller m'asseoir, donc il n'y aura pas Élie pour vous dire qui c'est qui a bu. Et on va juste laisser nos cœurs se vider devant Dieu, répandre notre âme devant l'Éternel. C'est pas une belle expression, ça. Mais souvent, notre âme, elle est comme de l'huile qui restait au froid. On retourne la bouteille, c'est figé. Pour prendre le temps que ça se réchauffe, pour que ça puisse se vider devant Dieu. Ben, ça même. Et puis après, on va finir en se réjouissant ensemble. Seigneur, merci pour ce que tu fais dans nos vies. Merci pour l'enfantement spirituel. Merci pour la vie de l'esprit qui seule peut satisfaire nos âmes. Pour cette parole qui peut nous percuter et faire que rien n'est comme avant. On te prie ce matin vraiment, à cause de ta grâce, à cause de toi, que ça reste pas une histoire, que ce soit pas juste un petit moment sympa, mais que ce soit une vraie rencontre avec toi, où ta parole, réellement ta parole, spirituelle, vivante, vienne toucher nos cœurs, et que nous repartions rassasiés par toi, vers la prochaine étape. Amen.